j'ai la mémoire qui flanche.
Je me souviens plus très bien.
Ça n'a pas d'importance.
Aujourd'hui tout va bien.
Des choses à dire, à partager.
On en a des milliers.
Entre la gare et les pompiers. La radio des aînés.
À Florois, sur Radio Bartas, les aînés de la maison de retraite prennent la parole.
J'ai la mémoire qui flanche. Je me souviens très bien. Ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, tout va bien.
Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans cette 6e émission de la Radio des aînés.
Une émission réalisée par les résidents de la maison de retraite de Florac.
Aujourd'hui, ce sont des souvenirs gourmands que nous voulons partager avec vous.
Choux farcis, truites, cochonailles, tourtisseaux ou charlotte à l'ananas. Préparez-vous à voir l'eau à la bouche. Et nous commençons en écoutant Jean Sablon et Émilie Matisse, vous connaissez pas ces gens-là, qui nous expliquent comment faire une bonne bouillabaisse.
Bonne à votre, ok?
Vous de même, oui.
Merci.
À votre bonne santé. Ah, comme c'est beau ce midi.
Oh, oh, mon Dieu, Jean Sablon. Comment vous avez l'accent pointu?
Pointu?
Ben, je comprends, monsieur. Vous avez failli nous crever un œil à tous les deux.
Oh, 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 oh écoutez, là, je joue même à la pétanque, Valassin.
Ah, ouais. Eh bien, peut-être que vous jouez à la pétanque, monsieur Jean Sablon. Mais en tous les cas, il y a une chose que vous ne saurez jamais faire.
Et quoi donc, madame Émilie Matisse?
Eh bien, c'est la bouillabaisse, mon beau.
Oh, oh, bonne mère, vous tombez mal. La bouillabaisse, non seulement je me la pêche, mais je me la fais, je me la mange et je me la chante. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et l'eau fraîche, raconter des blagues avec les mains. Les courageux prennent leur canne et vont eux-mêmes la pêcher, mais le poisson passé ricane, il n'y a plus qu'à l'acheter au marché.
Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon.
Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et l'eau fraîche, raconter des blagues avec les mains. Une langouste est nécessaire, de la baudroie et des fenouilles, 12 orascas, un petit Saint-Pierre, huile, safran, ail et fenouil.
Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon.
Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et l'eau fraîche, raconter des blagues avec les mains. On invite une belle petite Marie-Louise ou bien Suzon. Ensemble remue la marmite en se bécotant tout le long.
Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon.
Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et sans cesse raconter des blagues avec les mains. Il faut bien attiser la braise, Suzon le fuit ingénument. C'est ainsi que les Marseillaises
comment
éprouvent leur tempérament.
Super. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon.
Pour faire une bonne bouillabaisse, faut se lever de bon matin, préparer le pastis et l'eau fraîche, raconter des blagues avec les mains. On laisse un peu la bouillabaisse pour pétanquer au cabanon. On tire et on fait des prouesses quand on revient.
Eh bien, quand on revient.
Il n'y a plus de bouillon.
Oh, ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon.
Si la bouillabaisse n'est pas bonne, c'est pas que Marius ne soit pas fort. Croyez-moi, c'est la faute à personne.
La faute à qui, alors?
C'est la faute.
Oui.
À ce coquin de sort.
Oh, ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon.
Et dites-moi, Émilie Matisse, vous l'aimez ma bouillabaisse?
Jean Sablon. Oh, bonne mère, que c'est bon.
Je vais vous raconter comment je cuisinais. J'avais un grand fourneau à bois avec un grand four. Et moi, j'avais des poulets, comme ça, de temps en temps, quand j'en faisais tout bien, je mets tout au four avec un peu d'huile et un peu de lard. Et je le surveillais de temps en temps pour voir qu'il se prépare. Et j'attendais à peu près il fallait pas attendre à peu près une heure. Et après, quand il était froid, je mettais au congélateur un peu, et j'allais même au jardin, pas loin. Alors j'allais chercher des légumes frits, là. Et j'en préparais dans la cocotte, j'en faisais que la cocotte, et puis je les préparais pour les manger avec. Et je faisais comme ça. Et puis, je faisais autre chose, mais enfin. Le lapin, c'est pareil, les cuisses, je les faisais cuire au four, pareil, avec un peu d'huile, un peu de lard. Et puis le reste, je le faisais cuire à la cocotte minute. Et voilà. Et je me débrouillais comme ça, quoi, c'était bien. Mais la soupe, je faisais la soupe avec de légumes aussi, avec un peu de lard. Oui, mais c'était bon ça, la soupe au lard, dans le temps. Et puis, j'avais des salades, j'allais ramasser des salades. Aujourd'hui.
On m'appelait Mamie Beignet parce que je faisais toujours des beignets. S'il y avait des restes de n'importe quoi, je faisais des beignets. Plutôt salé que sucré, même. Bah, des anchois, pas mal. Parce que l'anchois, ça va bien avec le beignet. Et n'importe quoi, des poireaux, de n'importe quoi. On mangeait ça avec une salade et c'était des restes, n'importe. Hein. Pas de la viande, j'ai jamais eu de viande. Hein. Du poisson, c'était de l'anchois. Ah, des beignets de courgettes. Ah, c'est vrai, j'y pensais pas. C'est très bon, d'ailleurs.
Et quoi ?
Des beignets de courgettes.
Des beignets de courgettes.
Je les salais un peu à l'avance pour faire rendre l'eau.
Bon, moi, je vais vous parler plutôt... Je ne sais d'abord pas cuisiner. C'était le travail de mon épouse. C'était pas le mien. Mais enfin, quand j'ai été seul, il a bien fallu y faire. Mais enfin, ce qu'on aimait bien, c'était un plat de truites. Mais tout d'abord, il fallait aller les attraper. Il fallait se lever de bonne heure au mois de mai ou au mois de juin, c'était le moment le plus favorable. Descendre à la rivière, hein, le bon matin, à la pointe du jour, et dans un courant, à la semi-courant, tu lançais ta ligne avec un verre, tu sentais une petite touche, hein, tu disais, il y en a une. Tu repassais, tac, tu la ferrais, tu l'avais. Quand tu en avais 4 ou 5, tu avais fait un parcours de 5 ou 600 mètres, 5 ou des fois 1 km, que tu avais ton plat de truite, tu rentrais à la maison. Il fallait de suite les nettoyer, c'est-à-dire avec un ciseau par l'anus, on refendait le ventre de la truite et on sortait les tripes, la vessie, tout ça. On les essuyait bien et on les laissait au frigo au moins 24 heures. On les mangeait que le lendemain ou le surlendemain quand elles étaient un peu reposées. À ce moment-là, il fallait bien les enfariner, une fois bien sèches, les enfariner et les mettre à la poêle avec soit de l'huile, soit du lard fondu. Il y en a qui préféraient les truites au lard. Enfin, il fallait les retourner plusieurs fois dans la poêle, à feu très doux. C'était au feu à gaz, au feu très doux, jusqu'à ce qu'elle soit bien rôtie. C'était la truite, la fario, avec des petits points rouges. Là. C'était une bonne truite de rivière. D'abord, les clients, ils étaient friands de truites hein, quand il y en avait au menu. Une fois cuite, c'était un régal, la peau était croustillante. On les servait. Il fallait un peu de citron, une tranche de citron. En fait, il fallait enlever la peau d'abord, et sortir les épines dorsales, comme tous les poissons. Et manger les filets avec, si on avait du poisson, s'il n'y avait pas de poisson, quelques gouttes de vinaigre. Mais c'était...
Citron, vous voulez dire, s'il y avait du citron.
Oui, on préférait le citron, mais en cas de... Si on n'avait pas de citron, ça pouvait arriver. On mettait quelques gouttes de vinaigre, ça relevait un peu le goût du poisson. C'était des truites excellentes, qu'il n'y a malheureusement plus, pas beaucoup, du moins dans la rivière. Maintenant, il faut aller au lac de Barandon si... On veut pêcher un plat de truite ou les acheter à la pisciculture de l'Anglade. Elles sont bonnes, mais enfin, ça ne vaut pas les truites de rivière. Elles sont plus grasses, elles sont nourries avec de la viande ou de tout aliment, je ne sais pas. C'était une époque et que je regrette bien. Une bonne truite de rivière.
Pendant 2 ans, c'était la durée d'un séjour en Extrême-Orient, eh bien... J'étais à l'état-major, donc je n'ai pas bougé, à Saïgon. Et tous les dimanches, on avait droit, comme à l'entrée, un crabe farci. C'était des petits crabes, pas très, très importants, mais c'était un délice. J'ai cuisiné les crabes farcis en France, hein, et ça,
tout le monde a apprécié. Mais en général, j'avais un livre de cuisine qui s'appelait « Tante Marie », qui doit exister encore. Et tout ce qui était dans le bouquin, eh bien, je cuisinais n'importe quoi. Et d'après ce que j'ai de mon entourage, tout le monde a apprécié les recettes que je faisais, que je prenais dans ce livre. J'améliorais un petit peu. Par exemple, j'avais vu dans un restaurant un lapin farci. Alors ce lapin était... Il fallait le désosser, enlever toutes les côtes. Et puis ça faisait une poche dans laquelle on mettait la chair à saucisse. Et on le faisait, on le mettait au four. On mettait beaucoup de plantes pour aromatiser. Et puis, ma foi, moi je faisais ça... comme on va au travail en maçonnerie, je réussissais toujours en me référant de ce livre de Tante Marie.
Ah, moi, je ne vous donnerai pas une recette, parce que je n'ai pas été cuisinier, mais je vous donnerai des choses que ma mère a préparées, qui étaient très bonnes, que maintenant on ne fait plus. Par exemple, le chou farci. Le chou farci, c'était quelque chose que c'était merveilleux. Alors, on choisissait un chou, le chou d'huile qu'on appelait, qui n'a pas les feuilles trop serrées. Là. Elle les bouillantait, et puis elle ouvrait, et puis entre les feuilles, elle mettait la viande, ce qu'il fallait. Et puis, dessus, on y faisait une croix avec des couanes bien touchées. Et on le faisait cuire au feu de bois devant le feu. Devant le feu, sur une marmite, on tournait la marmite sur le couvercle qui était étanche, je lui mettais de la braise, ça se consommait. Il ne fallait pas le toucher tant qu'il n'était pas cuit. Mais et le lendemain, quand on sortait ça, c'était une merveille ce chou, c'était vraiment bon. On aimait ça, maintenant j'en parle à ma femme, on dit oui, je ne sais pas faire ça, moi, maintenant on ne fait plus. Et voilà. Et puis, il y avait aussi une autre recette qu'on faisait, c'était le farcin. Parce que, comme étant à la campagne, nous faisions le pain. Nous faisions notre pain. Et dans le four, on faisait des farcins. Le farcin, c'était des herbes, mais il n'y en avait pas toute l'année. On appelait ça le pavot. Le pavot, c'était la rouelle, on appelait ça. C'était le cocolicot en herbe. C'était merveilleux pour faire des farcins. C'était mieux que les herbes qu'on cultive dans le jardin. Mais il n'y en avait pas toute l'année, il n'y en avait qu'au printemps de ça. Alors là, c'est ça au four, là, on laissait là pendant cuire lentement. Mais quand on sortait ça, c'était merveilleux. Mais le chou farci, on le faisait souvent quand on avait quelqu'un qui venait manger à la maison. Qui le savait, il nous ferait un chou farci, parce que j'en aime ça. Alors le lendemain, on le coupait en tranches, comme ça, là, c'est merveilleux. Et quand il était trop froid, on le passait à la poêle, ça dessus, dessous, coupé en tranches. Je me rappellerai comme si j'en ai encore l'eau à la bouche. J'en aimais bien venir manger à la maison, parce qu'elle faisait la bonne cuisine, ma mère. Et quand quelqu'un venait, par exemple, je ne vous dirai pas qui, mais enfin, bon, il venait un peu à l'ami, c'était les gendarmes. Ils arrivaient toujours là, un peu avant le repas. Et oh, ma mère disait, mais j'ai rien pour manger aujourd'hui. Oh, dans le tiroir, on trouvera bien quelque chose. Ils le savaient. On faisait aussi, on mangeait beaucoup, nous un peu braconnier aussi, on mangeait du gibier. On faisait le lièvre au tournebroche. Je ne sais pas si vous connaissez ça, au tournebroche. On épluchait le lièvre, on le préparait, on le mettait autour de la roche, on le faisait tourner devant le feu. Et on le mettait devant le feu que quand on se mettait à table. Il fallait demi-heure même pas pour le faire cuire. Et alors, on le flambait avec du lard, on allumait le lard, là, on le faisait couler là-dessus. C'était comme ça. C'était pas que le gibier, vous savez, on l'a attrapé, mais c'était pas par bénéfice qu'on le faisait. Parce que, sauf le cochon qu'on tuait, on n'achetait pas de la viande. C'était rare qu'on achète de la viande. On mangeait du gibier ou du cochon, comme ça, à la campagne.
Et oui, on mangeait du cochon à la campagne, car comme le chante Juliette, tout est bon dans le cochon.
tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon.
Désormais je veux chanter le cochon, le pâté, le saucisson.
C'est bon.
Répétons sur cet air polisson. Qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon. Je pourrais dire bien des choses sur son talent. Il a la couleur des roses sans leur piquant. Et puis quand on a terminé les bons morceaux, reste de quoi faire des souliers et des pinceaux.
Et ça c'est beau.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon, c'est bon,
c'est bon. C'est bon, c'est bon.
Désormais je veux chanter le cochon, le pâté, le saucisson. Répétons sur cet air polisson.
Qui c'est qui est
bon?
Qui
c'est qui est bon? C'est le cochon,
c'est bon.
En ces temps de régime allégé, la résistance passe par le gobage effréné, driette du manche. C'est une drogue, une friandise, à un tel point qu'on en planque dans les valises, comme Jean Gabin.
C'est bien.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon,
c'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon, c'est bon.
Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson. Répétons sur cet air polisson. Qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon. Le cochon est tellement sage qu'en son honneur, je vous délivre un message qui vient du cœur. Battons-nous pour les droits de l'homme avec raison, puisqu'on dit souvent que les hommes sont des cochons.
2, 3, 1, 12.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon,
c'est bon,
c'est bon, c'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon,
c'est bon.
Désormais je veux chanter le cochon, le pâté, le saucisson.
Répétons sur cette terre pollution.
C'est bon, c'est bon, c'est bon.
Qui c'est qui est bon, c'est le cochon.
C'est bon.
On tue le cochon en saison d'hiver, au moins qu'il gèle pour prendre sel. Elle prenait mieux le sel que non pas quand il fait chaud, vous comprenez. Et on tue un ou deux cochons par an. Toujours, il y en avait un petit pour attendre le gros, et puis souvent on tue des gros qui faisaient 250 kilos. Hein. Ça remplissait les placards. C'est. Et alors on faisait la charcuterie maison, le saucisson, la saucisse, le fricando. Les fricando. Encore, j'ai les filles qui en ont l'eau à la bouche quand j'y en parle. Le fricando chaud, quand on le sort, on le fait cuire au feu, et le matin, vous le sortez tout chaud, là, une délice comme ça. On a eu essayé d'en faire réchauffer, mais c'est pas pareil, ça ne revient pas pareil.
Ça n'a pas le même goût.
Et puis on faisait aussi la saucisse des cousins qu'on appelait.
Quoi,
vous ne voulez pas connaître ça? C'était une saucisse qu'on faisait et qui était très bonne, mais il fallait pas la manger crue, il fallait la faire cuire celle-là. On y mettait un petit peu les abats du cochon avec quand même quelques bons morceaux de viande. Il fallait mettre, vous savez, vous mettez que des abats et c'est pas terrible. On appelait ça la saucisse des cousins, mais elle ne se conservait pas tellement, il fallait la manger assez vite. Vous voyez. On consommait 2 ou 3 mois, mais pas plus.
Oui, je sais pas pourquoi.
Indique que la saucisse sèche, on la conservait toute l'année, on la mettait dans l'huile. Voilà, toute l'année, manger de la saucisse faite maison. Et c'était un métier charcutier. Moi, je me régalais au jour où on tuait le cochon. J'ai regretté de ne pas pouvoir faire charcutier. J'aimais charcutier. Pas boucher, mais charcutier. Charcuter la viande. J'aimais ça. Et le jour où on tuait le cochon, c'était la fête pour moi.
Ouais, alors la saucisse, on la mettait comme il dit dans des marmites comme ça, et on les faisait tourner dedans, et on y mettait de l'huile à mesure que, pour les conserver. Les fricando, c'était pareil dans les marmites, avec, on les couvrait de la graisse. Et le saucisson, on les faisait sécher, et le lard, on les mettait aussi à sécher, voilà. On préparait la chose, parce que on est obligé de le conserver comme ça, il n'y a pas d'autre moyen. Le jour qu'on tue le cochon, on appelait ça la charbonnade, oui. Et tu te rappelles, toi? Alors, on faisait cuire des boudins, des filets de cochon, avec des pommes, et puis il y avait autre chose après, mais enfin, c'était surtout ça, la préparation. On appelait ça la charbonnade.
Ah ben, moi, on tue le cochon aussi à la maison. Comme disait Monsieur Paul Brody, un ou deux, ça dépendait des années. Bon, le matin, il fallait attraper le cochon, le saigner, le racler, enlever la soie avec l'eau bouillante, puis après l'ouvrir, sortir les boyaux, les femmes dépecer les tripes, quoi. Et découper la viande, il fallait la laisser refroidir sur un plateau quelques heures, même il y en a qui le faisaient que le lendemain, la charcuterie, parce qu'il fallait que la viande soit froide. Et on désossait, on faisait la saucisse, le saucisson, la saucisse. Et il fallait le saler, je ne me rappelle plus les mesures maintenant. Par kilo, on mettait 20 grammes de sel ou je ne sais pas. Alors on étalait cette viande, passait à la machine. C'était une machine qu'on tournait à la main, elles n'étaient pas électriques à l'époque. Et cette viande, on mettait avec le sel. Il y en a qui mettaient quelques graines de poivre des fois. Alors on pastait, on appelait, on remuait là, il fallait que ce soit dur. Et puis après on faisait des petites boules pour le passer à la machine et pour faire les saucisses. Alors il fallait tenir là, il y avait un entonnoir, il fallait tenir le boyau, la tripe, et on laissait remplir la saucisse. Quand c'était au bout, il y en avait un qu'il fallait avec une ficelle, il lit le bout. On faisait des saucisses à peu près d'un mètre, des saucisses rouges.
La viande et la saucisse, vous la coupez à la machine ou au couteau ?
On l'a coupée au couteau, il paraît qu'elle était meilleure.
Ah oui, elle était beaucoup meilleure.
Elle était meilleure.
Moi j'ai fait les deux, mais moi, c'était ma spécialité au couteau, avec deux couteaux là.
C'était plus long.
Elle était beaucoup meilleure.
Oui, mais fait, moi je l'ai moins connue. Je l'ai moins connue.
On
coupait à la machine avec des grilles qui étaient grosses. Quoi.
Mais oui,
la grille pour le foie, elle était plus fine, il y avait plusieurs sortes de grilles.
Tandis que le couteau, là, la coupe carrément.
Alors c'était bon, on faisait la saucisse, et une fois que la saucisse était faite, le soir, il y avait le repas avec les voisins, la famille, on mangeait de la charcutaille, pardi. On commençait par la soupe, c'était l'oreille qui était cuite dans de l'eau, qui avait des bulles sur la soupe. Puis après, on mangeait la viande noire et la viande grasse, il y avait deux sortes de viande, c'est-à-dire un morceau de cuisse, la viande rouge, et un morceau plus gras. Après, il y avait la carbonade, comme a dit Claude, là. C'était des pommes de terre cuites avec de la viande coupée en petits morceaux, mais cuites dans une cocotte. Et puis le boudin,
le bon boudin,
avec des morceaux de filet, de la rôtie, on appelait ça de la roustide. Avec des boudins. Et après le boudin, il y avait souvent une salade verte du jardin. Une sucrine ou une escarole. À l'époque, l'hiver, c'était escarole. Du fromage et le dessert. Le dessert, c'était souvent des poires, avec des poires cuites avec des pruneaux. C'était presque la tradition. Le café et un coup d'oignol pour terminer. Voilà. Et puis après, au lit. C'était des journées bien accomplies.
Je m'en souviens un peu, la veille, j'avais pitié de ce cochon.
Et le lendemain, vous le mangiez quand même ou pas ?
Ben oui, parce qu'il fallait le tuer, enfin, on n'assistait pas à sa mort, mais enfin déjà, c'était beaucoup que de le voir mourir.
Voir un petit coup, c'est agréable. Voir un petit coup, c'est doux, mais il ne faut pas rouler dessous la table. Voir un petit coup, c'est agréable. Voir un petit coup, c'est doux.
Un petit coup, la 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 la, un petit coup, la 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 la, un petit coup, c'est doux.
Allons dans les bois, ma mignonnette. Allons dans les bois du roi, nous y cueillerons la fraîche violette. Allons dans les bois, ma mignonnette, allons dans les bois du roi. Voir un petit coup, c'est agréable, voir un petit coup, c'est doux. Mais il ne faut pas rouler dessous la table. Voir un petit coup, c'est agréable. Voir un petit coup, c'est doux.
Un petit coup, la 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 la, un petit coup, la 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 la, un petit coup, c'est doux.
J'aime le jambon et la saucisse, et j'aime le vin quand il est bon, mais j'aime encore mieux le lait de ma nourrice. J'aime le jambon et la saucisse, mais j'aime le vin quand il est bon. Voir un petit coup, c'est agréable. boire un petit coup, c'est doux. Mais il ne faut pas rouler dessous la table. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux.
Un petit coup, la 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 la, un petit coup, la 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 la, un petit coup, c'est doux.
Non, Lucien, tu n'auras pas ma rose. Non, Lucien, tu n'auras rien. Monsieur le curé a défendu la chose. Non, Lucien, tu n'auras pas ma rose. Non, Lucien, tu n'auras rien. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux. Mais il ne faut pas rouler dessous la table. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux.
Un petit coup, la 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 la, un petit coup, la 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 la, un petit coup, c'est doux.
C'est Marcel Borda qui nous chantait « Boire un petit coup, c'est agréable ».
Les desserts à la campagne. Ma mère, elle n'était pas pâtissière, mais elle nous faisait les oreillettes. C'est elle les faisait très bien. Elle faisait dans de l'huile à la poêle, là. Et elle en faisait des corbeilles entières avec tout y passait. C'était bon. On n'appelait ça les oreillettes, mais je sais pas que son prénom, c'est la...
On le fait toujours. Les kermesses, ça s'est fait. À Vaubon, il y en avait. Cette année.
Partout, ils sont faits.
Quand elle était bien faite, là, il fallait qu'elle soit assez sucrée, quand même, un peu.
Ça se fait.
Ça, ou quelquefois, quand on faisait le pain au four, c'était le seul gâteau qu'on mangeait. Ou une tarte aux prunes, quand c'était le moment des prunes. On n'était pas spécialisé dans les gâteaux, mais les grand-mères n'étaient pas spécialisées dans les gâteaux.
Ma grand-mère faisait des gâteaux, chacun individuel, la flône, hein. C'était fait avec du cahier, de la tome. Hein. De la tome, et elle faisait une pâte, mais quoi ? Dans la pâte, et on mettait ça au four. C'était exquis. J'en ai jamais remangé. Je ne sais pas si ça se fait, mais j'ai l'impression que c'est perdu. C'était l'année que j'ai passé mon certificat d'études. Hein. Elle me l'avait donné, c'était la guerre. Et elle m'avait dit, on aura tes amis ou comment ça. Et j'avais mon cousin, Jacques Nazon, il m'a dit, cache-toi pour le manger. C'était la guerre, les gens n'avaient pas pour manger. Et ils en faisaient au four aussi. Ça se voit le plein four, ils en faisaient. C'était bon. La flône, FLAUNE.
Du flône, mais en occitan, on disait la flauzone.
Mais ça se cultive ou c'est...
Non, ça se faisait avec du cahier de lait de chèvre. Et des œufs, tu le battais, tu le cuisais, quoi. C'était un dessert, comme un gros beignet, quoi.
C'est gros.
Ça se cuisait au four après le pain, quoi.
Je vous dis, mes enfants, ce qu'ils adoraient, mon mari pareil, c'était le flan. Alors, des flans, j'en ai fait. Bah, du lait, je me rappelle plus, hein. La maïzena, des œufs. Oui, enfin, comme tout le monde le fait, quoi.
Voilà.
Rien d'extraordinaire. Je faisais de la fonte tarte aussi avec, qu'on remplissait de flan, quoi.
Qui c'est qui vous avait appris cette recette ?
Que c'est, vous me demandez là, ma pauvre. Je me rappelle plus.
Ça se transmet dans la famille. Hein.
Oh oui, et puis de toute façon, je ne me rappelle plus. Hein.
Les grand-mères, les mères.
Je ne me rappelle plus. Hein.
Vous les transmettez.
Je suis trop vieille maintenant, ma pauvre. Qu'est-ce que je vous dis ?
Oh, mais le dessert, j'avais des fruits. J'avais des fromages, j'avais des fruits. Et voilà, je faisais comme ça.
La recette des tourtisseaux. Tourtisseaux, c'est un gâteau qu'on fait frire dans du beurre. On fait d'abord une pâte un peu épaisse. On la coupe en tranches, et puis dans l'autre sens, et on en fait des carrés. Et ensuite, on les frit dans la poêle. C'est ça, de tourtisseaux. Puis après, on les mange. Et on peut les conserver comme ça, pas au grenier, mais dans une pièce que l'on peut conserver, dans une boîte, pendant, disons, je sais pas moi, 2-3 semaines peut-être. C'est une recette de Vendée que l'on fait en général au Mardi Gras.
Je vais vous donner la recette de la charlotte à l'ananas. Alors, on achète des biscuits, des boudoirs, le genre de boudoir pour la langue de chat. Alors, donc, pour dire, évidemment, en principe, il faut un moule, hein, qu'on met avec des cannelures, hein, qu'on met tout autour, au fond. Alors je prenais du Gervita, c'est ça. Deux par deux, ce vanin. Je ne sais pas si ça existe toujours.
Des petits pots de quoi ?
Alors, de Gervita. Alors je mettais ces pots, les deux pots. Attendez, je ne m'en rappelle pas. Je mettais du sucre. Hein. Alors j'avais j'achetais un Tupperware. Hein. C'était une recette au Tupperware. Hein. Des dosettes. Hein. Alors je mettais une dosette et demie de sucre en poudre, que je remuais avec ça. J'achetais une boîte d'ananas, par du jambes du cœur. J'achetais une boîte d'ananas, je versais le jus dans un plat avec un petit peu de rhum pour faire un parfum. Les langues de chat, on les trempe là-dedans, mais on les trempe et on les sort. Il ne faut pas mettre tout. Et vous mettez tout ça autour de votre plat. Vous le remplissez, alors, puis après les Gervita, avec le sucre et l'ananas. L'ananas, vous voyez. Je mettais ça, je le remplissais là-dedans. Je mettais des langues de chat dessus. Je mettais le couvercle. Et l'été, je les mettais au congélateur. Ça faisait une glace. Et l'hiver, on peut le manger comme ça. Et c'est très beau.
On continue dans la gourmandise avec la chanson « La confiture des frères Jacques ».
Un petit dessert de Marino, la confiture. Confiture, ça dégouline, ça coule sur les mains. Ça passe par les trous de la tartine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Bien sûr, on peut avec du beurre. Les trous, on peut bien les boucher. Ça ne sert à rien, c'est un leurre, car ça coule par les côtés. Voudrais contrôler sa tartine, la tenir droite exactement. On la met en bouche, ça coule irrémédiablement. Et ça vous coule dans la manche, et ça vous longe le pourpoint, de l'avant-bras jusqu'à la hanche, quand ça ne descend pas plus loin. Et quand ça coule pas, ça tombe. Le pain s'écrase entre les doigts. Ça ricoche, puis ça retombe.
Côté collant, ça va de soi.
On tente de passer l'éponge. On en met plein ses vêtements. Plus on essuie, plus on allonge, plus on frotte et plus ça s'étend. C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent manger de la crème de marron. Ça colle au pain, c'est sans mystère, c'est plus commun mais ça tient bon. On fait l'école buissonnière, de retour on prend l'escabeau. On va tout droit vers l'étagère, pourquoi tourner autour du pot? Qu'elle soit aux fraises, à la roularde, ou la gorgise de brûlant. La confiture, on la chaparde, on l'aime clandestinement. Puis un jour, on l'est bien en place, on aime la vie de château. Dans les avions, dans les palaces, on vous porte sur un plateau. La confiture qui dégouline, qui coule sur les mains, qui passe par les trous de la gardine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Bien sûr, on peut avec du beurre, mais quand on peut bien les boucher, ne sert à rien, c'est un
C'était cette émission touche à sa fin. Nous espérons qu'elle vous aura intéressé. Prochain rendez-vous en 2015 avec une sélection de nos chansons préférées. D'ici là, nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Ça vous va ? C'est fini. J'ai la mémoire qui flanche.
Je me souviens plus très bien.
Ça n'a pas d'importance.
Aujourd'hui tout va bien.
Des choses à dire, à partager.
On en a des milliers.
Entre la gare et les pompiers.
La radio des aînés.
À Florois, sur Radio Bartas, les aînés de la maison de retraite prennent la parole.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens très bien. Ça n'a pas d'importance, aujourd'hui tout va bien.